VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerrier et Eric Manirakidza avec vous. Bienvenue dans cette édition du mercredi 28 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
République démocratique du Congo, le département du Trésor a pris des sanctions contre des responsables congolais en raison des atteintes sur la démocratie et les droits de l'homme.
Jean-Pierre Bemba a interjeté appel de sa condamnation à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale. Il dénonce les défauts de son procès.
Mauritanie, grève des journaux privés pour alerter sur leurs difficultés.
Soudan du Sud, un journaliste enlevé en juin a été retrouvé mort.
Washington prêt à envoyer plus de soldats en Irak pour la reprise de Mossoul, le dernier bastion du groupe État islamique.
Une frappe américaine en Afghanistan a fait au moins 18 morts. Elle visait des combattants de l'organisation État islamique.
L'économie et les sports.
Juste après le journal.
République démocratique du Congo, le département du Trésor a pris des sanctions contre des responsables congolais en vue des atteintes sur, en raison des atteintes sur la démocratie et les droits de l'homme. Sont visés le général Gabriel Amissi Koumba, alias Tongo Fort, le major-général John Nubi Banza Tombo, ancien inspecteur général de la police nationale du Congo. Ils sont accusés de menacer la stabilité et de saper le processus démocratique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Toujours en RDC, la mission de l'ONU proteste contre les menaces et intimidations à l'encontre d'un journaliste de Radio Okapi. Selon la MONUSCO, le journaliste qui souhaitait couvrir le procès des présumés auteurs des événements du 19 et 20 septembre s'est vu intimidé, menacé, séquestré par les responsables de la sécurité de Makala à Kinshasa. Il a été accusé de violation d'un site stratégique alors qu'il interviewait un avocat commis à la défense des 10 détenus. Il avait pourtant suivi la procédure requise pour une couverture médiatique d'usage en prison, d'après l'ONU.
L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a fait appel de sa condamnation par la Cour pénale internationale. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
Selon la défense de M. Bemba, ses droits ont été à tel point violés que le procès est en fait un jugement entaché d'un vice de procédure. Jean-Pierre Bemba, 53 ans, était un riche homme d'affaires avant de devenir chef de guerre. Il avait été condamné en juin à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a été jugé responsable de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le Mouvement de libération du Congo, en Centrafrique, entre octobre 2002 et mars 2003. Ce jugement était également le premier de la Cour à avoir mis l'accent sur le recours au viol comme crime de guerre. Le bureau de la procureure a 2 mois pour répondre. Par ailleurs, la Cour pénale internationale rendra son verdict le 19 octobre dans un procès annexe contre Jean-Pierre Bemba, accusé de subornation de témoins.
Anastasie Toudiech. Les journaux privés en Mauritanie étaient paralysés aujourd'hui par une grève pour sensibiliser l'opinion sur leurs difficultés, aggravées selon eux par une mesure du gouvernement suspendant la publicité des services de l'État.
Le journaliste sud-soudanais Isaac Vouni, enlevé en juin, a été retrouvé mort. Reporters sans frontières appelle les autorités de Djouba à faire toute la lumière sur ce meurtre. Claire Morin-Gibourg.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, les 4 responsables de l'Union nationale des étudiants ont été libérés. Aucune charge n'a été retenue contre eux, d'après la police. En revanche, les étudiants accusés d'avoir commis des actes de vandalisme lors de la manifestation de lundi seront mis à la disposition du parquet. Ils protestaient contre la décision du gouvernement de supprimer les bourses d'études, malgré l'interdiction du rassemblement décidé par le ministre de la sécurité.
Nouvelle attaque en Égypte. 3 policiers et un civil ont été tués par balle par des hommes qui ont ouvert le feu sur leur véhicule. dans le nord de la péninsule du Sinaï, théâtre de nombreuses attaques djihadistes contre les forces de l'ordre. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur.
Une réunion sur la Libye se tiendra la semaine prochaine à Paris avec plusieurs représentants de pays de la région, dont l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis et la Turquie. Dans le reste du monde, les États-Unis enverront des renforts militaires pour aider les forces irakiennes à reprendre la ville de Mossoul, occupée par le groupe État islamique.
Au moins 4600 soldats américains sont actuellement en Irak et selon un responsable américain s'exprimant sous anonymat, le président Barack Obama s'apprête à ordonner l'envoi de quelques 600 instructeurs et conseillers militaires sur place. Leur mission, former et conseiller les troupes irakiennes alors qu'elles finalisent leur plan de reconquête de la ville de Mossoul. Dans une déclaration publiée sur son site internet, le premier ministre irakien Haider al-Abadi a confirmé le feu vert de l'administration Obama à sa requête pour une augmentation du nombre d'instructeurs et de conseillers militaires. Pour l'heure, il n'est pas clair si les renforts américains incluront des unités des forces spéciales. Cela fait des mois que les États-Unis et l'Irak préparent l'offensive majeure qui permettra de reprendre Mossoul, deuxième ville du pays et dernier bastion urbain des djihadistes du groupe État islamique.
C'était Timothée de Nangma. Israël, décès de l'ancien président Shimon Peres. Le peuple israélien se prépare à se recueillir sur la dépouille de Shimon Peres et à recevoir les dirigeants de la planète aux obsèques du prix Nobel de la paix et figure historique de l'État hébreu. Le corps de M. Peres sera exposé au Parlement à Jérusalem pour dire adieu à celui que tout le monde appelait Shimon. Les grands de ce monde se réuniront au cimetière national du Mont Herz pour mettre en terre celui que beaucoup décrivaient comme leur ami et dont ils ont salué la vision, le courage ou la ténacité dans la recherche de la paix.
Aux États-Unis, un homme noir au comportement erratique a été abattu par la police en Californie. Ce meurtre a provoqué rapidement des rassemblements de manifestants. Ils accusent les forces de l'ordre d'avoir une nouvelle fois fait un usage excessif de la force. L'homme, qui avançait et reculait devant les policiers, a refusé d'obéir aux ordres et de sortir la main de sa poche.
Destruction en 2014 de l'avion du vol MH17 de Malaysian Airlines. Selon les premiers résultats de l'enquête pénale internationale présentée aux Pays-Bas aujourd'hui, le missile Buk qui avait abattu l'appareil a été acheminé de Russie avant d'être tiré d'une zone tenue et contrôlée par les séparatistes pro-russes. Moscou et les rebelles démentent toutefois cette version et accusent plutôt les forces ukrainiennes.
Syrie, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié de crime de guerre les attaques contre des hôpitaux à Alep. Il s'exprimait aujourd'hui en réaction au bombardement des deux plus grands hôpitaux dans la partie rebelle de la ville.
Par ailleurs, le pape François a dénoncé à Rome le regain de violence en Syrie et lancé un appel à la conscience des responsables des bombardements qui devront rendre compte devant Dieu. D'un ton grave, le souverain pontife a évoqué sa profonde douleur et sa vive préoccupation face aux événements qui se passent dans cette ville déjà martyrisée, touchant des femmes, des enfants, des personnes âgées, des jeunes, tous, dit-il.
Au Brésil, la justice de Sao Paulo a annulé tous les procès qui avaient condamné 74 policiers militaires pour le massacre de 111 détenus dans la prison de Carandiru lors d'une rébellion en 1992. La défense avait affirmé que les policiers ont réagi en légitime défense car menacés par les mutins. Le parquet local s'est déclaré perplexe et a annoncé qu'il saisirait le tribunal supérieur de justice pour maintenir les condamnations.
La Turquie a annoncé aujourd'hui avoir arrêté plus de 30 000 personnes dans l'enquête sur la tentative de coup d'État de juillet. À la suite de ce coup manqué, Ankara a lancé de vastes purges visant des partisans présumés de l'ex-prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'en être l'instigateur.
Malnutrition chronique au Yémen. De nombreux enfants de la communauté de pêcheurs d'El Rouha, localité du sud-ouest du pays, subissent de plein fouet les conséquences de la guerre. La nutrition a été exacerbée par le conflit qui oppose depuis 2014 les rebelles chiites houthis accusés de lien avec l'Iran au gouvernement du président Abrabo Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie saoudite.
Les autorités espagnoles ont annoncé aujourd'hui les arrestations dans ce pays, en Espagne, Allemagne et Belgique, de 5 membres présumés d'une cellule de propagande en ligne de l'organisation djihadiste État islamique pendant une opération de police internationale.
Et malgré les menaces pesant toujours sur les deux piliers de la politique migratoire européenne, la Commission européenne a voulu positiver la répartition controversée de demandeurs d'asile dans l'Union.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minuteco avec Nanit Talani.
La Tunisie est en état d'urgence économique avec une croissance atone et des finances publiques en grande difficulté, a prévenu le ministre de l'Investissement Fadel Abdelkefi à l'approche d'une conférence internationale des investisseurs à Tunis. Il a évoqué un déficit public abyssal à 6,5% et une dette publique de 63% du PIB qui a plus que doublé en 5 ans. Il a relevé aussi que la croissance en 2016 serait inférieure à 1,4%, loin des 2,5% escomptés. La croissance mondiale reste trop faible et trop inégalitaire et souffrirait d'un retour au protectionnisme, une recette économique du passé qui a déjà échoué, a affirmé la patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Elle estime que restreindre le commerce et limiter l'ouverture économique conduira forcément à aggraver les perspectives de croissance mondiale pour les citoyens les plus vulnérables. Si nous tournons le dos au commerce, nous étoufferons un des principaux moteurs de la croissance au moment même où l'économie mondiale a besoin de chaque nouvelle positive, a assuré Madame Lagarde à Chicago. Le ministre algérien de l'énergie, Noureddine Boutarfa, a une nouvelle fois insisté sur la nécessité d'agir sur l'offre d'or noir pour stabiliser le marché pétrolier et relancer les investissements avant le début d'une réunion informelle de l'OPEP à Alger. Selon lui, il faut agir sur l'offre pour pouvoir stabiliser le marché, plombé par une production excédentaire.
On passe au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Suite de la Ligue des Champions.
Le choc entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich. Le PSG qui rencontre le Ludogorets, le club bulgare au Parc des Princes. Et la rencontre entre Arsenal et le FC Ball ce mercredi qui va permettre d'assister à un nouveau duel entre les frères Xhaka après le match entre la Suisse et l'Albanie à l'Euro. À suivre également Naples-Benfica, le Beşiktaş à Istanbul contre le Dynamo Kiev, le Celtic Glasgow face à Manchester City, Borussia Mönchengladbach contre le FC Barcelone et le FC Rostov contre le PSV Eindhoven.
Et hier, beau succès de la Juventus de Turin.
Oui, la Juve a corrigé le Dynamo Zagreb 4-0. Séville a battu Lyon 1-0 grâce à un but de Wissam Ben Yedder. Leicester a retrouvé sa hargne et s'est imposé contre le FC Porto 1-0 au terme d'un match engagé. Tottenham, vainqueur sur le terrain du CSKA Moscou 1-0, s'est relancé dans le groupe E en décrochant sa première victoire. Et puis le but de Cristiano Ronaldo n'a pas suffi. Dortmund a arraché le match nul contre le Real 2-2 mardi dans une rencontre où tous les ingrédients d'une grosse soirée Ligue des Champions étaient réunis avec des buts, du rythme et des parades de gardiens. Sporting Portugal qui domine le Legia Varsovie 2-0. Monaco a refait le coup du hold-up à Leverkusen. 1-0 en égalisant à la dernière seconde grâce à une volée magnifique de Kamil Glik. Du coup, Monaco préserve la tête de son groupe en Ligue des Champions. A noter également le beau succès de Copenhague qui corrige le FC Bruges 4-0.
L'Europa League demain.
Défait d'entrée de jeu, Manchester United de José Mourinho à l'occasion de se racheter en recevant les Ukrainiens de Zorya Lugansk. Dans l'autre match du groupe, Feyenoord tentera de conserver sa position de leader dans le bouillant stade de Fenerbahçe. A noter l'Inter de Milan, l'équipe de Franck de Boer, créditée d'un bon début de championnat qui doit se reprendre à Prague face au Sparta. L'AS Rome doit rebondir à domicile contre les Roumains d'Astra Giurgiu. Enfin, la Fiorentina qui reçoit Karabag, tandis que le PAOK va à Liberec.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours VOA Afrique, Morgane Guiriek et Eric Manirakiza avec vous. Place au dossier du jour, la République centrafricaine, Morgane.
Bangui demande toujours la levée de l'embargo sur les armes. Message répété aux Nations Unies par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, alors que les groupes armés désarment difficilement sur l'ensemble du territoire, comme l'ont montré les violences de Kwango, où une vingtaine de personnes ont trouvé la mort.
Oui, juste préciser, Morgane, que le président Faustin Archange Touadéra a accordé un entretien à notre collègue Nicolas Pineau avant de regagner son pays. Et les associations de victimes et de parents de victimes du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry ont tenu une conférence de presse ce mercredi 28 septembre 2016. Ce jour-là, plus de 150 manifestants pacifiques avaient été tués par les forces de défense et de sécurité et plus de 100 femmes avaient été violées.
Et nous en y revenons dans quelques instants, Eric. Si vous le voulez bien, on va passer tout de suite l'interview du président Faustin Archange Touadéra qui s'est entretenu avec Nicolas Pineau.
Les membres ont essayé d'expliquer leur surprise de voir les autorités guinéennes et les partis politiques de l'opposition les abandonner. Pourquoi à la fois les autorités et les partis politiques ? C'est que le pouvoir actuel et l'opposition actuelle sont tous issus des forces vives de la nation qui avait organisé la manifestation, donc le rassemblement du 28 septembre 2009. Il y a des personnes disparues dont on n'a aucune nouvelle, on n'a jamais vu encore des rumeurs laissent entendre que la junte de l'époque dirigée par capitaine Moussa Dadis Camara avait acheminé des corps vers la mer. Aucune nouvelle. Donc les parents aujourd'hui étaient très frustrés de se voir abandonnés sur le plan national et international et surtout le fait qu'il n'y ait aucune communication sérieuse autour de ce dossier.
Est-ce que l'on peut s'attendre à un procès en 2017 ?
Il est clair que les parents tiennent à poursuivre l'espoir, mais le fait qu'il y ait eu des accords politiques avec, par exemple, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était à la tête de la junte, fait penser à certains que des manigances politiques peuvent faire échouer les procédures judiciaires.
Est-ce que l'on peut espérer aussi qu'il y ait plus d'auditions d'auteurs présumés ?
C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a la mobilisation, c'est parce que justement ces victimes et parents de victimes pensent qu'en communiquant un peu plus, qu'en agissant un peu plus, peut-être que ça peut pousser les autorités justement à faire auditionner ces personnes-là. Mais malheureusement, le fait politique intervient très souvent et c'est ce qui inquiète surtout les victimes.
Et qu'en est-il des personnes inculpées qui sont toujours au sein du gouvernement ? Est-ce que l'on peut s'attendre à ce qu'elles soient éventuellement suspendues pour les besoins de l'enquête ?
C'était l'espoir quand on annonçait leur inculpation. Malheureusement, ces personnes continuent à officier comme si de rien n'était. C'est ce qui surtout déçoit ici les victimes, les parents de victimes et l'opinion en général en Guinée, où on annonce des inculpations qui ne sont pas suivies d'actes. Et malheureusement, des personnalités comme Kekboro Camara qui est inculpé et d'autres personnes continuent à diriger des structures publiques, sont autour du chef de l'État et ça inquiète.
Voilà, c'était notre confrère Nou Baldé, fondateur de Guinée Matin. Il était joint à Conakry. Vous avez compris, on a quelques problèmes techniques aujourd'hui. Et donc, il parlait donc des associations de victimes et des parents de victimes du massacre du 28 septembre à Conakry qui ont tenu une conférence de presse aujourd'hui. Alors, on retourne cette fois-ci encore sur la République centrafricaine pour écouter l'interview de Faustin Archange Touadéra au micro de Nicolas Pinault.
Vous voyez que nous avons hérité d'un pays où il y a eu beaucoup de difficultés, nous sortons d'une crise. Et il y a encore des groupes armés qui sont encore dans le pays, qui occupent une bonne partie du territoire. Et il y a aussi, comme vous savez, les gens avec les armes, eh bien, il y a aussi la criminalité qui va avec, puisque c'est cela. Mais nous essayons de travailler sur la sécurité, et convaincre donc nos compatriotes, tous les groupes armés, pour déposer les armes et renforcer donc nos forces de défense et sécurité. Au jour d'aujourd'hui, il y a les forces des Nations Unies, la MINUSCA, qui nous aident à rétablir la protection de nos populations, la sécurité. Et de notre point de vue, ces violences, nous allons tout faire pour que, limiter et faire en sorte que nos populations puissent vivre dans la tranquillité pour vaincre leurs occupations.
Alors l'un des leaders de ces groupes armés, le général Sidiki, dit qu'il a reçu son autorité de Bangui. Vous l'avez rencontré. Quelle est votre réponse?
J'ai reçu tous les groupes armés pour leur montrer, indiquer donc notre vision, comment nous voulons engager le processus de désarmement. Et nous avons rencontré Sidiki justement, qui, grâce à la facilitation logistique de la MINUSCA, qui a permis donc cette opportunité d'échanger avec lui pour lui montrer cette vision. Il nous a semblé adhérer au DDM, mais il serait question de demander à Sidiki d'assurer. Non, ils doivent faire en sorte que son groupe puisse rentrer dans le processus du DDR. Aujourd'hui, il n'est plus question d'aller vers la violence. Les Centrafricains veulent la paix, les Centrafricains veulent la cohésion sociale. Ce n'est pas en causant des violences sur les différentes communautés que nous allons voir la paix. Et ceux qui continuent, ils vont faire face à la justice de notre pays. Et nous les invitons à rentrer dans la République.
L'embargo sur les armes pour pouvoir équiper l'armée centrafricaine.
Absolument.
On en parle depuis des mois, mais avez-vous obtenu des réponses concrètes?
Non, nous continuons justement pour un plaidoyer pour que justement cet embargo qui peut-être dans le temps avait sa justification, mais maintenant ça ne l'est plus. À partir du moment où il y a eu des élections, le peuple a fait son choix, il y a un gouvernement légitime, il y a une assemblée nationale, on ne va pas avoir une armée sans armes.
Voilà, c'était Faustin Archange Touadéra au micro de Nicolas Pinault. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur voaafrique.com.
C'est le président de la Centrafrique. Au Burkina, quelques blessés par balle dans l'insurrection populaire contre le putsch manqué sont partis en Tunisie pour les soins. Les victimes et les proches affichent leur satisfaction. Les détails de Issa Napon à Ouagadougou.
Aéroport de Ouagadougou, 18h passées. Les blessés de l'insurrection populaire font leur apparition dans le hall de départ. Certains d'entre eux peinent à marcher. Ils sont tenus à bout de bras par leurs proches. 4 blessés le sont de leur mouvement lors de l'insurrection quand le 5e fait partie des blessés du putsch manqué de septembre 2015. Après de longs mois d'attente, ils ont enfin le sourire.
En tout cas, après disons 2 ans d'attente, maintenant, bon, voilà qu'on nous emmène en Tunisie pour nous soigner. Vraiment, nous sommes très fiers. Moi, j'ai été blessé à la colonne vertébrale. Actuellement, je sens trop de douleur.
J'ai suivi les soins, donc, comme tous les autres blessés au niveau de l'hôpital Yalagdo. Bon, mais là où la balle se trouve, il se trouve que, bon, les médecins disent que c'est un peu compliqué. Il y a un problème de matériel qui se pose. Donc, pour ne pas courir des risques, ils ont préféré que je marche jusqu'à présent avec la balle. Bon.
Bientôt, ils seront pris en charge dans un hôpital de référence en Tunisie, au grand soulagement du président de l'association des blessés de l'insurrection populaire, Sia Franck.
Dans l'urgence, ils ont décidé d'évacuer 5 des nôtres qui, jusqu'à présent, trimballent des balles toujours dans leur corps. Nous n'allons pas dire que c'est une victoire parce qu'il y a toujours des problèmes. Hein. que ces blessés vivent. Mais il y a d'autres, jusqu'à présent, qui ont d'autres problèmes. Ça peut être des problèmes de nerfs, des problèmes de tout genre. Donc, ça fait que ces personnes sont toujours là, à l'attente. Ce qui était important, c'était ceux qui portaient toujours des balles. Après eux, bon, nous allons continuer le combat.
Des blessés ragaillardis par la présence de la ministre en charge de la solidarité nationale et de la famille, Laure Zongo Yen, est venue marquer le soutien du gouvernement.
Je suis venue pour les soutenir, pour leur traduire tous nos encouragements. Je crois que dans le programme du président, en phase avec les ODD, c'est de travailler à ne laisser personne de côté. Peut-être qu'après leur départ, bientôt d'autres moyens pourront être mobilisés encore pour ceux qui n'ont pas encore pu bénéficier de ce rapport.
C'est ainsi le deuxième départ pour soins de blessés de l'insurrection populaire pour une action salvatrice qui en attend d'autres pour la trentaine de blessés encore dans le couloir de la patience. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Présidentielle américaine, la campagne continue de battre son plein. Lors d'un meeting hier en Floride, le candidat républicain Donald Trump a promis de prendre sa revanche après le débat télévisé historique remporté, selon les observateurs, par sa rivale démocrate Hillary Clinton. Jacques Aristide.
Acclamé par une foule déchaînée de plusieurs milliers de personnes réunies dans un hangar en bord de piste à l'aéroport de Melbourne en Floride, avec son Boeing 757 personnel en toile de fond, Donald Trump a violemment attaqué Hillary Clinton. C'était un Donald Trump revenu aux fondamentaux de sa campagne des primaires pour regonfler le moral de ses troupes. S'attribuant la victoire au débat, le milliardaire a repris le surnom qu'il n'avait pas osé utiliser pendant l'émission, Hillary la crapule. Il n'y a pas plus malhonnête qu'elle, a-t-il lâché au cours de ce meeting. J'ai retenu mes coups, je ne voulais rien faire qui puisse la gêner, mais je l'ai observée, elle est coincée dans le passé, a déclaré Donald Trump. Signe que le républicain n'est pas si satisfait que cela de sa prestation et il a promis de taper plus fort lors du prochain débat le 9 octobre. Pour lui, la démocrate est la candidate du passé et lui le candidat de l'avenir. Le message est bien passé lors de l'émission, mais le candidat s'est fait piéger et a semblé nerveux, oubliant de parler du mur à la frontière avec le Mexique qui constitue la pièce maîtresse de son programme présidentiel. Construisez le mur, ont entonné ses partisans. Nous construirons le mur à 100%, a répondu Donald Trump. J'aime tout ce qu'il dit, dit Helen Nunn, 40 ans, qui ne croit pas à un débat raté.
Et Jacques, Hillary Clinton, elle, s'est adressée à ses partisans hier soir en Caroline du Nord. Autre champ de bataille électorale ?
Oui, une Hillary Clinton requinquée après deux semaines de flottement, sûre d'avoir dominé le milliardaire lors du débat de lundi soir, qui a été suivi par un nombre record de 84 millions de téléspectateurs. Hillary Clinton a estimé avoir prouvé que le magnat de l'immobilier n'avait ni le caractère, ni les compétences pour succéder à Barack Obama. Un de fait, plus que deux, a lancé la candidate démocrate dans un institut d'enseignement technique à Raleigh, acclamée par 1400 supporters. Elle a encouragé les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à se mobiliser alors que dans plusieurs États, le vote par correspondance a déjà commencé. Elle a puisé avec gourmandise dans le duel télévisé pour noircir le portrait du républicain. Il s'est vanté de profiter du système pour ne pas payer sa part d'impôt, dit-elle. Il n'a probablement jamais payé une centime pour soutenir nos soldats, nos anciens combattants ou nos écoles, ajoute-t-elle. Il faudra plusieurs jours pour mesurer l'impact du débat sur les nombreux électeurs toujours indécis à quelques semaines du scrutin. Hillary Clinton se rend aujourd'hui dans le New Hampshire et Donald Trump, lui, dans le Wisconsin. À ce jour, l'ex-première dame recueille 43% des intentions de vote contre 41,5% pour l'homme d'affaires, d'après la moyenne calculée par le site Real Clear Politics. La bataille est loin d'être gagnée. L'équipe Trump a d'ailleurs annoncé avoir levé la somme étourdissante de 18 millions de dollars en 24 heures. Par comparaison, il avait levé 90 millions durant tout le mois d'août.
Merci Jacques, et c'est la fin de cette édition. Lionel Rounanira Gaïma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Joe Gill à la console. Présentation Morgane Diriek et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de rester à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook, près de 2 millions déjà. On maintient la conversation. Enfin, restez branchés sur notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.